Il est 9h12, vous êtes sur Europe 1 et vous retrouverez Philippe Vandel, bien sûr, de 9h30 à 11h pour Culture Média, les programmes d'Europe 1, adaptés évidemment à cette situation particulière du coronavirus. Europe 1, la radio ouverte, le hashtag radio ouverte pour poser vos questions, pour témoigner, le 39-21 bien sûr, et le docteur Jimmy Mohamed est avec nous. Rebonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu.
C'est vrai qu'on vous retrouve tous les jours de 15h à 16h dans Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez, mais en ce moment vous êtes mobilisé et on vous retrouve toutes les heures pour répondre aux questions de nos auditeurs. Alors, avant de poser une question, parce qu'il y a beaucoup de questions de santé, je voulais absolument que vous entendiez, Jimmy, le témoignage de Jérôme qui est en ligne avec nous. Et j'ai voulu qu'on le rappelle parce que je me suis dit que c'était presque pour vous, Jimmy. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Vous êtes à Marciac dans le Gers, je crois, Jérôme.
Tout à fait.
Et le gérant
nous
d'une...
une petite boutique.
Oui, un petit proxy,
une
c'est
superette.
Ça une superette. Oui, allez-y, on écoute votre témoignage, Jérôme.
Moi, je voudrais témoigner. Déjà, nous, depuis 15 jours, on livre gratuitement toutes les personnes qui le désirent, les personnes âgées surtout. Voilà, là, j'ai entendu, évidemment, à partir d'aujourd'hui, toutes les infirmières ou personnel médical sont prioritaires à la caisse. Et surtout, je voulais un peu aussi remercier tout mon personnel qui accepte encore de travailler. Et j'aurais beaucoup aimé qu'on nous fournisse du gel hydroalcoolique au minimum et des masques.
Pour pouvoir
que tous les magasins, nous, on n'a rien. On ne peut pas en avoir.
Pour pouvoir travailler correctement et à travers le témoignage de Jérôme, c'est une réaction aussi, Jimmy Mohamed, au docteur Lamine Garbi qui était en ligne avec nous à 6h40, qui préside la Fédération Hospitalière Privée et qui disait « Donnons de la priorité au personnel soignant après 12 heures de garde, dans le contexte que l'on connaît, on n'a pas forcément envie de passer 2 heures à faire les courses, Jimmy Mohamed, on est d'accord ?»
C'est vrai, mais on oublie effectivement de les remercier, notamment ceux qui travaillent dans les grandes distributions. Ils sont exposés, ils voient de nombreuses personnes tous les jours et c'est un peu les oublier finalement des remerciements, des éloges qu'on peut leur faire et aussi des moyens de protection. Mais on vit une période assez surréaliste. Je vous explique que la semaine dernière, on m'a contacté pour me dire qu'une maternité à Paris, la maternité Sainte-Félicité, qui fait 3300 accouchements par an, où il y a des femmes qui sont positives au Covid-19, dans cette maternité, il n'y a plus de gel hydroalcoolique ni de masque. C'est vous dire l'état dans lequel on est, on nous a souvent dit qu'on a beaucoup de masques, qu'il fallait pas s'inquiéter, que du gel hydroalcoolique, qu'on allait avoir en quantité suffisante, qu'il n'y aurait pas de pénurie. Pour autant, j'ai l'impression que c'est très compliqué. J'ai dû faire hier une quinzaine de pharmacies pour avoir un peu de gel hydroalcoolique. Donc, c'est vrai qu'il faudrait que les caissières soient protégées puisqu'elles sont exposées. Elles prennent des risques. J'ai fait un arrêt maladie ce week-end pour une caissière, justement, qui avait tous les symptômes. Et donc, c'est vrai qu'il est honteux qu'il n'y ait pas des moyens de protection. Alors, dans certains supermarchés, ils ont mis quelques dispositifs en mettant notamment une vitre de plexiglas pour peut-être éviter que la caissière soit contaminée, notamment par des clients. Mais c'est vrai que c'est une situation un peu scandaleuse et je le regrette, mais effectivement, ils sont les oubliés du système.
Alors, merci Jérôme. Et avant d'entrer dans le dur, parce qu'il y a des questions techniques, et on va parler de la chloroquine dans un tout petit instant, mais je réagis avec Marie-Lou qui a 80 ans, qui nous a appelé au 39-21. J'ai peur que les articles achetés en grande surface soient contaminés. On fait entrer des choses susceptibles d'être contaminées chez soi. Est-ce que je dois tout décontaminer, chaque article acheté? Demande Marie-Lou, c'était en lien avec le témoignage de Jérôme.
Bah, je pense que dans l'état actuel, alors c'est vrai que c'est une période surréaliste. Jamais je n'aurais cru qu'on en arrive là, mais je pense qu'effectivement, désormais, étant donné que l'épidémie est installée, toute personne qui touche du plastique, du carton, peut transmettre du virus.
Ça n'est pas absurde.
Ce que dit
Marie-Lou n'est pas absurde. Décontaminer ce qu'on a acheté en magasin.
Moi, je pense que lorsqu'on a fait des courses, je pense qu'à la maison, il faut enlever les emballages. Alors, soit vous mettez une paire de gants, soit vous gardez, vous ne mettez pas de gants. Vous enlevez les emballages, vous les jetez, c'est-à-dire que l'emballage du dentifrice, vous le retirez, vous ne gardez que le dentifrice. Les yaourts, la même chose, etc. Et puis ensuite, vous vous lavez les mains, vous mettez tout ça dans une poubelle. Je pense qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et je pense que même si peut-être qu'à 3 mois ou même 1 mois, on aurait dit qu'on nous sommes complètement dingues de faire ça, je pense que désormais, il faut être vigilant. Et oui, les cartons peuvent être vecteurs, donc il faudrait les... Et puis le livreur, malheureusement, il faut leur rendre hommage, mais si le livreur touche des courses et qu'il était malade, je pense qu'il y a un risque de contamination et il faut faire attention.
Alors je continue en fait, et dans le désordre finalement des questions qui était prévue, mais c'est parce qu'il y a un enchaînement logique, si j'ose dire. J'avais cette question, voilà, sur le hashtag Radio Ouverte. Est-il risqué de commander des repas dans des fast-food, visage souriant, mais livreur qui arrive en sueur? Peut-être inquiétude sur l'hygiène aussi de ces restaurants, nous dit The Supervisor sur le hashtag Radio Ouverte.
Oui, je pense qu'effectivement, désormais, il y a un risque. Alors, vous dire quelle est la part de risque? Je pense qu'elle est très compliquée à évaluer. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de contamination alimentaire. Ce n'est pas, a priori, les sushis qui vont vous rendre malade, mais le fait que le livreur ou la personne qui a préparé la commande ait toussé, ne se soit pas lavé les mains. Et donc, même chose, lorsque vous recevez quelque chose d'un livreur, je pense qu'il faut jeter le sac plastique ou le sac en papier, qu'il faut déballer et jeter immédiatement l'emballage, et à ce moment-là, se laver les mains pour ne garder que le repas. Alors encore une fois, c'est vrai que tout ça, ça paraît surréaliste, mais je pense qu'il faut prendre le maximum de précautions pour essayer de limiter les dégâts. Si on peut éviter quelques contaminations comme ça, ce sera toujours ça de gagner, même si la probabilité est quand même très très faible, il faut le reconnaître.
On ne sera jamais aussi clair qu'en répétant qu'il faut avoir le maximum de précautions dans ce contexte inconnu, Jimmy Mohamed. Alors, j'ai une question qui est un peu générale, mais ça revient énormément dans les témoignages de nos auditeurs, dans les questions, dans les doutes aussi. Le débat autour de la chloroquine et donc de cet institut dirigé par le professeur Raoult, l'Institut Méditerranée Infection, devant lequel à Marseille, là, je vous donne l'info en direct, devant lequel il y a de la queue ce matin, parce qu'effectivement, il y a un effet d'annonce et tout le monde veut finalement sa dose de chloroquine aujourd'hui.
Oui, c'est compliqué. Alors déjà, il faut dire aux gens qu'il n'y a plus de stock de chloroquine. Ils ont été réquisitionnés, donc les pharmacies n'ont plus de stock de chloroquine. Il est inutile d'aller en demander à la pharmacie avec ou sans ordonnance. De toute façon, c'est sur prescription médicale. Et puis, il faut rappeler aux gens que le coronavirus, même si effectivement, il faut être très inquiet, 80-85% des gens vont guérir spontanément, c'est-à-dire sans traitement. Ils vont prendre éventuellement du paracétamol, ils vont aller bien, et donc il faudra réserver le Plaquenil aux 15-20% de
le
formes
sévères. Le Plaquenil, pardon, c'est le médicament à base de chloroquine, c'est l'hydrochloroquine.
Voilà, l'hydroxychloroquine, c'est le dérivé de la chloroquine. Et il faudrait réserver ce traitement aux formes sévères, celles qui pourraient se dégrader. On a le sentiment dans certains centres où déjà la chloroquine est testée, qu'en réanimation, ça ne marche pas très bien. Les malades seraient peut-être trop graves avant finalement d'avoir besoin de traitement. Donc il faudrait les réserver pour les formes modérées à sévères, celles qui vont être hospitalisées, qui ont besoin d'oxygène pour peut-être éviter une dégradation ou sur certains terrains fragiles. Mais monsieur et madame tout le monde qui va bien, qui a 40 ans, qui tousse, qui a un peu de fièvre, n'a aucune raison de prendre de la chloroquine en l'absence de critères de gravité. Donc à réserver finalement pour le milieu hospitalier.
Et peut-être que ces gens qui, parce qu'on ne le sait pas aujourd'hui en l'état, ces gens qui font la queue devant l'Institut Méditerranée Infection, c'est peut-être aussi pour le dépistage, puisqu'on a annoncé que là-bas on dépistait systématiquement.
Je pense que c'est un des éléments finalement de prévention de la maladie, de dépister de façon massive. C'est ce qu'ils ont fait beaucoup les Coréens, et on a fait ça aussi à Taïwan, et ça a fait ses preuves. Ils ont fait moins de confinement, mais beaucoup plus de dépistage et beaucoup plus d'isolement des personnes malades. Je pense que ça fait partie de la stratégie. Alors là, on vit encore une situation extraordinaire. On n'a pas assez de réactifs pour faire les prélèvements. Hier, le professeur Salomon disait qu'il n'y avait pas assez d'écouvillons pour faire les prélèvements au niveau du nez. Donc je pense que c'est compliqué. On a
c'est quoi un écouvillon, pardonnez-moi? C'est quoi un écouvillon?
C'est le petit coton-tige qu'on met dans les narines pour prélever un petit peu de liquide, en gros des sécrétions nasales, qu'on va remettre ensuite dans le petit tube et qu'on va envoyer au laboratoire. Et ben, le professeur Salomon a dit qu'il y avait même une pénurie d'écouvillons. Donc, si vous dire la situation dans laquelle on est, néanmoins, les tests rapides, ce qu'on appelle les quick tests, devront peut-être arriver d'ici quelques semaines. C'est un laboratoire qui avait annoncé ça, qui permettra de faire un diagnostic beaucoup plus rapide à domicile. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la sérologie, une prise de sang qui permettra de savoir, sous quelques jours ou quelques semaines, on n'a pas le délai, de savoir si vous avez eu le coronavirus ou pas. Parce que actuellement, lorsque vous faites un prélèvement avec l'écouvillon nasal, on fait une technique de PCR. Cette technique vous dit si jamais vous êtes infecté ou pas. Mais ça ne vous dit pas si vous avez eu la maladie. Or, il va falloir savoir si les gens ont été immunisés, si en quelque sorte ils sont tranquilles ou s'ils doivent maintenir des mesures de précaution.
Je reviens une dernière fois à la chloroquine sur le hashtag Radio Ouverte avec la question de Marc, traité avec un médicament qui utilise de la chloroquine, est-ce qu'il a raison d'avoir peur de manquer à terme ?
Alors oui, il y a un risque de pénurie, mais qui va peut-être s'organiser dans le sens où le laboratoire pourrait, en fonction de certaines pathologies, par exemple, vous avez un lupus qui est une maladie auto-immune qui nécessite du Plaquenil au long cours pour équilibrer la maladie, et bien ces malades, sur prescription médicale, et puis pourraient avoir leur traitement, puisqu'il ne faudrait pas déséquilibrer d'autres maladies au profit du coronavirus, même s'il y a une urgence sanitaire. Mais a priori, pour les malades qui sont déjà traités de façon chronique, il y aura une part réservée pour...
Accueillons Marie-Rose au téléphone. Marie-Rose à Nevers. Bonjour Marie-Rose.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue sur Europe 1 ce matin et merci mille fois d'avoir eu ce réflexe 3921 pour poser votre question. Elle vous est évidemment personnelle, mais je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs et auditrices vont se reconnaître. Marie-Rose, c'est à vous.
Merci de prendre ma question. Voilà. cela fait juste un mois que je suis opérée de deux cancers. Et à chaque sein, je dois commencer mes rayons demain, mais qu'à un seul sein, car le sein droit, on ne peut pas faire de rayons.
Marie-Rose, votre question, c'est sur le contexte. Est-ce que vous devez vous faire opérer maintenant, c'est ça?
Non, alors, j'ai été opérée, voilà, un mois juste, et je dois faire mes rayons demain. On ne peut pas en faire sur le sein droit, parce que j'ai un stimulateur cardiaque. Je dois faire mes rayons maintenant, mais avec le microbe corona, est-ce que je peux attendre? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que je dois le faire quand même?
Marie-Rose, je vais préciser votre âge pour le docteur Jimmy Mohamed. Marie-Rose a 74 ans.
Alors bonjour Marie-Rose, déjà bon courage dans cette épreuve, c'est vrai que c'est très compliqué et ce qu'il faut savoir c'est que normalement l'équipe référente, l'oncologue devrait dire si vous devez être convoqué ou pas pour savoir s'il faut maintenir ou pas la radiothérapie ou certaines personnes qui doivent prendre des chimiothérapies. Le professeur Axel Kahn qui est président de la Ligue contre le cancer rappelait qu'il était envisager qu'on suspende certains traitements, notamment anticancéreux, au vu du risque en cas d'infection à coronavirus. On rappelle que les personnes qui sont atteintes d'un cancer sont plus à risque de complications, le tout étant de ne pas les exposer de façon supplémentaire et surtout de ne pas les transférer dans des centres de soins potentiellement contaminés. L'idée, c'est d'éviter de la surmortalité liée au coronavirus et donc il y a un risque en allant dans un centre où il y a des malades de développer la pathologie. Donc il faut demander à l'équipe soignante. Il y a un numéro aussi d'écoute, c'est le professeur Axel Kahn qui nous avait dit ça, qui est le 0800 940 939, 0800 940 939. Vous pouvez poser des questions pratiques, il y a une cellule d'écoute, de soutien, des médecins vous répondent, mais néanmoins pour vous, pour demain, il faut demander à votre équipe est-ce que oui ou non je dois venir. C'est eux qui vont prendre la décision.
C'est eux qui vont prendre la décision. Et j'ajoute au passage, d'abord Marie-Rose, merci beaucoup hein.
D'accord. Par contre, j'ai une autre petite question à vous poser. Est-ce que c'est possible?
Allez-y, allez-y.
J'ai le docteur qui m'a posé mon stimulateur cardiaque et il m'a indiqué qu'il fallait faire vérifier mon stimulateur cardiaque après chaque rayon. Est-ce nécessaire?
Oui, il faut suivre les recommandations du cardiologue. Donc, s'il dit qu'il faut le faire, alors si on suspend votre séance le temps de l'infection, le temps de l'épidémie, si on espère peut-être qu'on en a pour un ou deux mois, je pense qu'il n'y a peut-être pas de risque à décaler un petit peu la radiothérapie, mais c'est sur avis évidemment de votre oncologue. Et pour les rayons, si vous avez dit de le contrôler, bah, il faut le faire. Il faut suivre les recommandations. Le tout est de ne pas finalement avoir de complications liées au fait qu'on arrête des suivis particuliers. Et tout l'enjeu est là, entre attraper le virus et finalement avoir des complications de l'absence de soins. Suivez les recommandations qu'on vous donne, que ce soit le cardiologue ou l'oncologue.
Et je remercie encore une fois Marie-Rose hein, qui nous a appelé avec son problème personnel. Je précise aussi, puisque vous l'avez cité à deux reprises, Jimmy Mohamed, que le professeur Axel Kahn sera notre invité demain à 8h15 et qu'il restera lui aussi pour répondre aux questions de nos auditeurs de 8h30 à 8h45 demain. Il préside la Ligue contre le cancer, mais on sait qu'avec Axel Kahn, on ne parle pas que du cancer et qu'il y a beaucoup de questions, notamment éthiques, qui se posent en ce moment. Alors, les pseudos Twitter, c'est toujours amusant, hein, mais j'ai Chakiral sur le hashtag Radio Ouverte qui nous dit, mais c'est une question pratique finalement, mon conjoint a tous les symptômes, sa boîte qui retape des vieux fûts pour le cognac ne s'arrêtera pas, comment je fais dans un désert médical pour qu'il ait un arrêt de travail?
Alors c'est une question intéressante, mais ce qu'il faut savoir c'est que la réponse est valable même pour les personnes qui ne sont pas dans un désert médical actuellement. Si vous avez des symptômes typiques du coronavirus, que vous ne faites pas partie d'une population à risque, avec des antécédents médicaux qui nous feraient craindre une complication, que vous allez bien, il est même inutile de vous rendre chez votre médecin traitant. Vous risquez de contaminer les autres personnes dans la salle d'attente, même si les médecins se sont organisés. Et puis, si jamais vous n'aviez pas le coronavirus, vous vous exposez à tomber malade. Et donc, il y a un outil qui est en train d'être développé, qui est valable partout en France. Alors, il faut avoir un petit peu de réseau malgré tout. C'est la téléconsultation. Avec une téléconsultation, vous aurez un médecin en face de vous qui pourra évaluer la situation avec vous, voir si vous avez besoin d'une consultation médicale et qui pourra vous délivrer un arrêt maladie le cas échéant. Enfin, si vous n'êtes pas malade, mais que vous êtes à risque, vous avez de l'insuffisance cardiaque, vous avez une insuffisance rénale, vous avez un diabète mal équilibré, vous avez le droit à un arrêt maladie sans consulter votre médecin, juste avec l'onglet de la Sécurité sociale, amélie.fr, vous remplissez un formulaire et vous avez un arrêt en quelque sorte préventif de 21 jours, vous évitant d'aller chez le médecin.
Voilà pour Shakiral sur le hashtag Radio Ouverte. Merci beaucoup de votre question pertinente, on l'entend. Évidemment, vous vous dites parfois, et j'insiste, que ma question ne concerne que moi, elle n'intéressera pas tout le monde, mais vous voyez comme chacun se reconnaît dans les différents cas de figure. On va terminer avec Dylan. Je la trouve passionnante, je ne suis pas sûr que vous ayez une réponse, docteur. On va essayer. Dylan qui nous dit, la transfusion sanguine d'un patient qui a guéri du Covid-19 peut-elle aider à combattre le virus ?
Alors c'est vrai que pour l'instant on ne sait pas, néanmoins dans l'histoire des maladies infectieuses, nous ne traitons absolument aucune infection au travers de la transfusion de malades qui seraient guéris. Vous avez, c'est valable pour la grippe, pour d'autres infections bactériennes. En revanche, ce qu'on a observé dans une étude chinoise, c'est que il y aurait une disparité de risque en fonction de votre groupe sanguin. Il semblerait dans cette étude que les patients du groupe O soient moins à risque de développer le coronavirus que les autres, et c'est le directeur de l'INSERM à Nantes qui expliquait avoir observé exactement la même chose en 2003 avec l'infection du SRAS à Hong Kong. Ils avaient observé les mêmes données, donc on serait peut-être un peu inégaux face au coronavirus en fonction du groupe sanguin. Néanmoins, la transfusion ne fait pas partie et ne fera pas partie des traitements.
Voilà pour Dylan, on reste ouvert sur cette question. Bien sûr, il y a beaucoup de points d'interrogation, et docteur Jimmy Mohamed, je vous remercie de répondre en direct à nos auditeurs, de jouer le jeu toutes les heures sur Europe 1. On vous retrouve à 15h avec Mélanie Gomez dans 100 rendez-vous, bien sûr. Alors j'ai écouté la fin de l'émission, vous serez déguisé chez vous pour le télétravail de 100 rendez-vous de 15h à 16h, Jimmy ?
Eh oui, je serai là entre deux visites.
on verra. Pour vous, c'est plus compliqué, évidemment. Mélanie Gomez à 15h, La France bouge de midi à 14h avec les initiatives, la solidarité, le grand journal du soir. Je ne peux pas vous citer tous les rendez-vous d'Europe 1, mais votre radio reste ouverte, votre radio reste mobilisée.